Aujourd'hui, le sujet qu'on va voir ensemble, c'est encore une petite étude biblique. On veut approfondir le sujet. On a parlé les trois semaines antérieures comment ce qui est important pour un chrétien d'obéir au commandement de Jésus. On est sous la nouvelle alliance, on est sous la loi de Jésus. Puis Jésus a dit deux choses bien importantes. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Fait que si, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur ici? Oui? Gloire à Dieu. Gardez les commandements du Seigneur. C'est une preuve qu'on monte à Jésus, qu'on l'aime. On n'est pas sauvé parce qu'on obéit aux commandements. Mais on démontre notre amour, puis on démontre notre foi au Seigneur quand on obéit aux commandements. Puis un autre verset que Jésus dit, que pour demeurer en lui, il fallait garder ses commandements. Parce qu'il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Puis il y a plein de promesses. Mais il dit, on l'a vu plusieurs versets dans ce sens-là, que pour demeurer en Jésus, demeure dans ses commandements. Parce que si tu pèches, si tu désobéis aux commandements de Jésus, tu te trouves à pécher, tu te trouves à être séparé. Là. On est en train de se séparer du Seigneur. On n'est plus en lui. On peut finalement s'éloigner du Seigneur puis être tellement refroidi qu'on s'en retourne dans le monde. Aujourd'hui, on va approfondir l'idée, Jésus a dit que les deux plus grands commandements de la loi, c'était d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, puis d'aimer son prochain comme soi-même. Puis il a rajouté un commandement de s'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Là, on va regarder la partie, on est dans la partie d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il dit ça, c'est les deux plus grands commandements, puis de ces deux commandements-là découlent toute la loi. Fait que les 10 commandements de Dieu se retrouvent dans ces deux commandements-là. Les deux commandements, c'est comme un résumé, ça l'englobe les 10, mais si tu veux aller en détail, tu veux dire, j'aime mon prochain, mais il dit, tu ne voleras pas. Tu le voleras pas si tu l'aimes. Tu ne mentiras pas si tu l'aimes. Bien, c'est ça qu'on veut éplucher chacun des 10 commandements, qui sont les commandements de Jésus. Tous les commandements, Jésus, il en a reparlé, puis les apôtres aussi. Comme faisant partie de l'enseignement de Dieu, parce que Jésus n'est pas venu pour amener sa doctrine, il est venu pour amener la doctrine de son Père. En étudiant aujourd'hui, on va regarder tout de suite le commandement numéro 4, parce qu'il y a une raison pourquoi que je passe tout de suite au commandement numéro 4, mais après ça, dans les leçons futures, on va regarder les autres commandements à partir du premier. On va étudier le sabbat de Dieu. Qu'est-ce que Dieu s'attend à propos du sabbat? Il en parle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il en parle dans le Nouveau Testament. Doit-on pratiquer le sabbat? Dans la Nouvelle Alliance. Le sabbat, est-il encore important aujourd'hui? Est-ce que Jésus pratiquait le sabbat? Est-ce que les apôtres pratiquaient le sabbat? Est-ce qu'on doit pratiquer le sabbat? Puis à quoi ça sert le sabbat? Là, on va voir le premier verset dans Genèse chapitre 2, le verset 2 et 3. Ceux qui prennent des notes, vous allez voir que je vais aller rapidement, il va y avoir plusieurs versets à regarder. Fait que je peux pas élaborer beaucoup, mais il faut capter rapidement. Voici comment Dieu institua le sabbat. Avant même toute chose, quand on parle, on est au niveau du début de la création, quand Dieu a créé le ciel et la terre. Quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour puis le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voyez-vous, Dieu, la première chose qu'il nous révèle, parce qu'on n'était pas là, mais il nous l'a révélé, il a créé toute chose en 6 jours puis le septième jour, il s'est reposé. Dieu a décrété qu'il y avait un jour de repos dans le septième. Lui-même s'est reposé le septième jour. Puis le mot repos, qui se reposa le septième jour, ça veut dire sabbat en hébreu, qui veut dire repos, qui veut dire cessation de travail. C'est ça que ça veut dire sabbat. Après cette déclaration-là, la Bible ne parle plus du sabbat jusqu'à temps que le peuple juif sorte de l'Égypte. C'est là que Dieu a comme continué à révéler. Fait qu'il s'est passé à peu près 1500 ans depuis le début de la création, là, Adam et Ève, tout ça, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël, ils ont été en Égypte pendant 400 ans. C'est quand Dieu est allé chercher le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte pour le sortir de l'Égypte, de l'esclavage, puis de les amener dans la terre promise, c'est là que Dieu a commencé à en reparler du sabbat. Mais il avait quand même donné une révélation au début de la création en disant qu'il avait fait le monde en 6 jours, la création complète en 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé. Le sabbat, il a été ordonné au peuple juif en même temps que Dieu a donné la manne aux Juifs. Vous savez, quand que Dieu, le peuple juif, en sortant d'Égypte, ils ont péché, ils ont désobéi, ils n'ont pas voulu y aller prendre possession de la terre promise, fait que là, Dieu les a ramenés dans le désert à tourner pendant 40 ans. Puis Dieu a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, puis il leur a donné comme nourriture, une des nourritures, c'est la manne. La manne, c'est comme une rosée qui tombait du ciel, ça tombait sur le sol, ça faisait comme des grains à terre, puis le monde sortait pour aller ramasser les grains, s'en ramassant une certaine quantité, puis là, Dieu les a donné, c'est là qu'a commencé l'institution du sabbat, il dit, vous allez ramasser de la manne pendant 6 jours, puis la 7e journée, il n'aura pas de manne. Fait que la manne ne tombait pas du ciel la 7e journée. C'était une journée de repos que Dieu donnait au peuple d'Israël. Puis il dit le vendredi, qui est le sixième jour, vous allez en ramasser une double portion pour pouvoir avoir de quoi manger le lendemain parce qu'il n'en tombera pas le jour du sabbat. Fait que pendant 6 jours, il en ramassait. Puis toute la semaine, s'il en ramassait plus, ça pourrissait. Sauf le vendredi, s'il en ramassait en double, ça pourrissait pas, puis il pouvait en avoir de quoi manger pour le lendemain, pendant le jour du repos. Puis quand il y en a qui ont sorti quand même le lendemain pour aller en ramasser, la journée qui était supposée de se reposer, mais Dieu les a punis parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, ils n'ont pas cru ce que Dieu avait dit. Dieu l'a dit qu'il n'y en aura pas. Puis il ne veut pas que le monde travaille cette journée-là, le 7e jour. Là, on voit que le sabbat s'était donné en même temps que la manne, mais il n'y avait pas le choix parce qu'il n'avait pas de toute façon de la nourriture dans le désert le 7e jour. Il n'en avait pas de manne. Ça tombait 6 jours, puis le 7e, il se reposait. Puis là, on voit ce verset-là qui explique cela dans Exode au chapitre 16, verset 29. Il dit « Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. » On voit clairement, avec tous les autres versets autour, comment est-ce que Dieu, il dit, à tous les jours, il les en donnait, puis le 7e, il n'en avait pas. Puis il instituait le repos, puis il a dit, ce 7e jour-là, vous restez chez vous. Ensuite, on voit, c'est pas longtemps après, ils ont été 40 ans dans le désert, puis après ça, ils sortaient du désert pour s'en aller dans la terre promise, pour la conquérir, puis là, Moïse a monté sa montagne, il est allé chercher la loi, que Dieu l'a appelé à aller sur la montagne pour aller chercher la loi, puis c'est là qu'il est redescendu avec les 2 pierres, avec les 10 commandements d'écriture, plus les autres principes de loi qui étaient écrits sur d'autres choses, sur des papyrus ou quelque chose. Au moment des 10 commandements, Dieu il a renouvelé l'idée, mais il l'a écrit dans les commandements comme quoi que les gens devaient respecter le sabbat. On voit ça dans Exode au chapitre 20, les versets 8 à 11. Il a inclus le sabbat dans le 4e commandement. Il dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Ça commence de même pour parler du 4e commandement. « Souviens-toi ». Il veut pas qu'on oublie cela. Souviens-toi, ça veut dire, rappelle-toi que moi, au début de la création, j'ai tout fait en 6 jours, puis je me suis reposé la 7e. Puis il dit aussi, quand que vous étiez dans le désert, vous aviez de la nourriture pendant 6 jours, puis le 7e jour, il fallait que vous vous reposiez. Mais il dit, souviens-toi, dans le commandement, il dit ça, du jour du repos pour le sanctifier. Ça veut dire le déclarer saint. C'est un jour saint aux yeux de Dieu, le 7e jour, le jour du repos. Il veut qu'on réalise comment est-ce que lui l'a décrété saint. C'est ce qu'il avait dit aussi quand il a créé toute chose au début. Il dit, Dieu bénit le 7e jour puis le sanctifia. Dieu lui-même a sanctifié le 7e jour. Puis il nous demande à nous de sanctifier le 7e jour, d'en faire un jour saint. Un jour saint, ça veut dire c'est un jour qui est consacré à Dieu. Quand que nous, on est devenus des saints, c'est parce qu'on est appelés des consacrés. On est sacrés. Dieu est sacré, le reste est profane. On s'est donné au Seigneur, on appartient au Seigneur, nous sommes les saints. Mais le jour où on veut le sanctifier, c'est un jour qu'on doit donner au Seigneur pour le sanctifier. Amen. Là, pour calculer les sabbats, dans la suite de l'histoire, à partir des commandements, là, dans le désert, ils pouvaient suivre ça facilement. Il y avait de la manne 6 jours, puis le 7e jour, il n'y avait pas. Mais après, en sortant de là, quand ils ont eu les 10 commandements, il n'y en avait plus de manne. Il fallait qu'ils continuent à calculer le cycle. 6 jours de travail, 1 jour de repos. 6 jours de travail, 1 jour de repos. C'est ce que Dieu a dit dans le commandement. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu feras aucun ouvrage. Là, il dit, ni toi, ni ton serviteur, ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger. Car, là, il dit la raison pourquoi il dit cela au verset 11. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Là, il réfère à qu'est-ce qu'il a déclaré au début de la création. En 6 jours, il a fait les cieux et la terre, la mer, puis tout ce qui sont contenus, puis il s'est reposé le 7e. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, puis il l'a sanctifié. On voit là-dedans comment est-ce que Dieu trouve ça important. Puis, il donne ça comme commandement au peuple d'Israël, 1 des 10 commandements, parce que lui a fait la même affaire au début de la création. Il dit, car en 6 jours l'Éternel. La raison n'est pas parce qu'il a voulu juste donner un commandement comme ça au peuple juif. Il dit, la raison, parce qu'avant même toute chose, au début, moi-même Dieu, il a fait les 6 jours de travail, puis le jour de repos, puis il a sanctifié ce jour-là. Il veut qu'on voie ça avec ses yeux à lui. Maintenant, on rentre dans l'idée, l'observance du sabbat par Jésus et par les apôtres. Est-ce que Jésus a pratiqué le sabbat? Est-ce que les apôtres ont pratiqué le sabbat? Y a-t-il des versets dans la Nouvelle Alliance qui nous parlent de cela? Ben oui. Jésus a accompli la loi sans la transgresser. Jésus a mis en pratique toute la loi de Moïse sans la transgresser. Jésus, comme on l'a parlé les autres semaines, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il l'a accompli. Il l'a mis en pratique de suivre le sabbat comme ça c'était écrit dans les commandements. Parce que Jésus, s'il aurait désobéi à cela, bien, il aurait été condamné, puis lui aussi aurait eu besoin d'un sauveur. Mais à cause qu'il était sans péché, ça veut dire qu'il obéit en toute chose aux commandements. Le sabbat faisait partie des 10 commandements. Là, on voit des versets qu'il dit. Dans Luc 4,16, on parle de Jésus, se rendit à Nazareth, où ce qui avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Jésus allait dans la synagogue le jour du sabbat. C'est quoi ça, une synagogue? C'est la même chose que nous autres, on a un lieu de réunion. C'est un lieu de réunion que le peuple d'Israël avait pour pouvoir lire la parole de Dieu, prêcher la parole, enseigner la parole de Dieu, prier, louer Dieu. C'est un lieu pour aller rencontrer Dieu, la même chose qu'on a ici aujourd'hui. Fait que Jésus, ça dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'était sa coutume à Jésus d'y aller. C'est pas une affaire exceptionnelle, c'est pas une affaire de temps en temps. Ça faisait partie de son mode de vie un disciple de Dieu, quelqu'un, dans ce temps-là, c'était le peuple d'Israël qui était là, dans ce coin-là, mais quelqu'un qui a la coutume, qui était comme, il avait intégré dans son mode de vie le fait qu'à tous les sabbats, on s'en va dans la synagogue. Dans Luc 4, 31, c'est la même chose. Il descendit à Capernaum, dans la ville de Galilée, puis il enseignait le jour du sabbat. Dans Luc 13, 10, ça dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. On voit aussi un peu plus loin, là, je t'ai juste pour Jésus, certains versets qu'on voyait qui respectaient le jour du sabbat. Lors de la Pentecôte, quand les premiers disciples se sont convertis, c'était la même affaire. On va voir quelques versets qui comment est-ce que les disciples pratiquaient eux aussi d'aller à réunion le jour du sabbat, c'était une journée consacrée au Seigneur, pour aller louer le Seigneur, prier, etc. À Pentecôte, dans Actes 2, 46, ça dit, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. » Fait qu'eux autres, les premiers disciples, c'était pas juste le sabbat qui allait au temple. Chaque jour. Tous les jours, il était au temple pour aller prier, louer le Seigneur, pour entendre la parole de Dieu. Au début. Ça n'a pas toujours été comme cela, mais au début, c'était comme cela. Ensuite, on voit l'apôtre Paul qui prêchait le jour du sabbat. On voit ça dans Actes 13, 14. Ça nous dit, « De Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche, de Pisidie, puis ils étaient entrés dans la synagogue le jour du sabbat. Ils s'assirent pour aller écouter les enseignements. Ben, ils ont rentré dans la synagogue le jour du sabbat. Un autre passage dans Actes 13, 42, ça nous dit que Paul a prêché dans une ville païenne pendant le sabbat. On voit dans ce verset-là que Paul il évangélisait, il se promenait dans une ville païenne, puis il y avait des synagogues dans une ville païenne, des lieux de réunion où ils pouvaient entendre la parole de Dieu. Puis, ils se réunissaient le sabbat. Dans Actes 13, 42 qu'on voit cela. C'est une ville de pas juive, c'est une ville païenne. Puis lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. On voit encore qu'ils les ont réinvités à venir parler de Jésus le prochain sabbat. Ça veut dire qu'à chaque sabbat, ils se réunissaient pour entendre la parole de Dieu. Puis là, les apôtres avaient été invités à retourner la semaine d'après à l'autre sabbat pour aller écouter la parole de Dieu. La semaine d'après, quand c'est arrivé, ça nous en parle, deux versets plus loin, dans Actes 13, 44. Ça dit, toute la ville s'est rassemblée pour l'entendre. Là, ils savaient que Paul y reviendrait la semaine d'après. Toute la ville s'est rassemblée pour l'entendre, puis les païens se réjouissaient, puis plusieurs ont cru, se sont convertis. Ça dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. On voit là-dedans comment est-ce que les gens, c'était comme, tu vas entendre parler de la parole de Dieu, mais c'est le jour du sabbat que ça se passe, tu t'en vas dans la synagogue puis t'écoutes la parole de Dieu. On voit un autre passage dans Actes 16, 13, où ce que Paul cherchait un lieu de prière le jour du sabbat. Dans Actes 16, 13, ça dit, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions qu'il se trouverait un lieu de prière. » Nous nous assîmes puis nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Voyez-vous encore l'idée qu'ils se réunissaient des réunions de prière le jour du sabbat. Un autre verset dans Actes 17, 2. Paul y entra dans la synagogue. Selon sa coutume, pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. On voit encore que c'était selon sa coutume qu'il entrait dans les synagogues le jour du sabbat. Acte 18, 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, puis il persuadait les Juifs puis les Grecs. Il prêchait à tout le monde, puis c'est encore le jour du sabbat. Pourquoi j'ai sorti ces versets-là? C'est parce que je veux qu'on comprenne que les premiers disciples, Jésus puis les premiers disciples, obéissaient au sabbat, respectaient le jour de repos. Puis, on a dit tantôt, c'est une journée qui est consacrée, c'est une journée qui est sanctifiée, c'est une journée qui est comme donnée au Seigneur, fait que tu vas au temple, ou tu vas à la synagogue, ou aujourd'hui on va à l'église pour entendre prêcher la parole de Dieu, pour louer Dieu, pour prier. C'est à ça que ça sert. C'est dans le but de s'approcher de Dieu, qu'on consacre une journée à Dieu. C'est autrement dit qu'on pourra dire, Dieu veut pas qu'on travaille 7 jours par semaine. Dieu veut qu'on travaille pas plus que 6. Il dit, fais tout ton ouvrage, mais consacre-moi une journée pour me louer, m'adorer, aller à l'église. On voit aussi quelques passages qui sont des prophéties dans la Bible. Puis ça prophétise le futur. Jésus, au début, puis même des versets dans l'Ancien Testament, ça prophétise le futur, puis ça nous dit que dans le futur, on va encore respecter le sabbat. Alors regardez bien dans Matthieu 24, les versets 20 à 22. Jésus, dans ce verset-là, il annonce que le sabbat sera encore observé pendant la grande tribulation qui va venir sur le monde entier. Là, je ne parle pas nécessairement, je ne veux pas vous expliquer c'est quoi au complet la grande tribulation, mais ça nous parle d'une période extrêmement grave qui n'en a jamais eu de pareil depuis la fondation du monde. Puis il dit, ces jours-là, ils ne seront pas abrégés, il n'y aura plus personne de sauvé, mais à cause des élus, ces jours-là vont être abrégés. C'est des moments terribles qui ne sont pas encore arrivés. Mais Jésus a dit quelque chose à ses disciples qui est important dans cette phrase-là, dans Matthieu 24. Il dit, « Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Ça, ça veut dire que Jésus voyait d'avance que dans le temps de la grande tribulation, il y aura encore du monde qui respectera le sabbat. Parce qu'il dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, puis qu'il n'y en aura jamais de pareil. » Ça va être laid dans cette période-là. Puis on voit une vision dans l'Apocalypse qui parle de la grande tribulation, puis il va y avoir beaucoup de monde sauvé dans cette période-là. Un autre point qui est intéressant, c'est d'une prophétie dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 66, les versets 22 et 23. La prophétie annonce l'observance du sabbat dans le règne de Christ pendant les 1000 ans. On le sait tous que Jésus va revenir puis il va établir son règne sur la terre. Puis c'est pas un règne de 1000 ans, c'est un règne des 1000 ans. Ça va être des 1000 ans, il est au pluriel le 1000 dans le texte. Dans Isaïe 66, là, il nous parle « Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune puis à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. » Ça, c'est dans Isaïe 66, les versets 22 et 23. Ça nous parle que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui est le règne de Christ sur cette terre, ben, on va encore respecter les fêtes des nouvelles lunes puis des sabbats. Puis, il y a un autre verset qui nous parle, qui nous donne encore l'idée que le sabbat, il va être dans l'éternité. Puis que l'éternité où est-ce qu'on s'en va dans la vie éternelle, c'est le sabbat du peuple de Dieu. Dans Hébreux 4, 9, ça nous dit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Fait que même dans l'éternité, le repos ou la cessation du travail, mais ça va être encore soulevé comme c'est le repos, mais attends, on n'est pas rendu là. Oui, on a une journée de repos à tous les 7 jours, mais le vrai repos, c'est après. On est encore dans le temps de travailler présentement. Amen. Là, on va débattre de... C'est pas un débat, là. Je vous donne cette partie-là, c'est ma conclusion personnelle. Quel jour doit-on faire le sabbat? Les Juifs font ça le samedi, les évangéliques font ça le dimanche, les catholiques font ça le dimanche. J'ai vu plusieurs commentaires sur Internet, des sites qui en parlent là, sur le sabbat, il y en a plein. Il y en a tellement là que quand tu commences à tout lire, tu deviens plus mêlé que tu étais avant de commencer à lire. Il y en a de toutes les sortes, que ça soit de suivre le calendrier solilunaire, de suivre le calendrier lunaire, de suivre le calendrier solaire, de pas suivre le calendrier pantoute. En tout cas, il y a des idées, il y en a comme tu peux avoir des chemises dans ton garde-robe. faut que tu y ailles avec le moins de théories extérieures, puis le plus de versets possibles. Des fois, les versets ne donnent pas toutes les explications. Faut qu'il y aille checker un peu dans les commentaires de l'un puis de l'autre, qui sont, tu te fies sur eux, qui sont des enseignants, qui ont fouillé un peu les autres écrits autour, s'il n'y a pas eu de modification, parce que les historiens, c'était pas des chrétiens, nécessairement. Puis, ce qui a été écrit comme histoire, il n'y a rien qui nous dit que ça n'a pas été modifié. Déjà que moi, je crois par la grâce de Dieu que Dieu a permis qu'on ait la Bible dans les mains, puis la Bible contient la parole de Dieu. Amen. C'est une bénédiction qu'on a ce livre-là. Là. On a des livres là-dedans qui datent de 4000 ans. Là. C'est quelque chose. Mais là, si on veut éplucher ce sujet-là, il manque quelques détails. Mais vous allez voir, c'est pas des gros détails. La plupart, on les connaît tous. Dans le temps de Jésus, tous respectaient, en parlant du peuple d'Israël, tous respectaient le cycle de 6 jours de travail puis 1 jour de repos. Si on se trompe pas. On voit ça dans Luc, chapitre 13, le verset 14. Ça dit, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. On voit que dans le temps de Jésus, les Israélites suivaient les 6 jours de travail, puis 1 jour de sabbat, puis ils disaient au monde, venez vous faire guérir là, les journées de travail et non pas les journées de sabbat. Tout ça, c'est juste pour faire le point comme quoi que le cycle 6-1 était maintenu dans le temps de Jésus. Ça a vraiment arrêté. Puis, il y en a qui essayent de dire que ce cycle-là aurait été défait avant, là, qu'à cause des changements de calendrier. Mais Jésus n'a pas de l'air à s'en faire avec cela. Le cycle qui est en vigueur là, c'était le cycle qui suivait. Puis, il le reconnaissait comme étant la journée de sabbat. Puis, selon sa coutume, au sabbat, il s'en allait à l'église. Puis, il ne travaillait pas, autrement dit. Sauf faire une couple de petites guérisons de temps en temps. Mais on va en parler un peu tantôt. Le jour du sabbat a toujours été le 7e jour dans le cycle des 7 jours des Israélites. Le 7e jour, parce que ce qu'on doit savoir, on parle d'une semaine. Le mot semaine, ça veut dire groupe de 7 jours. Semaine veut dire 7 jours. C'est ça que ça veut dire une semaine. Mais ça a toujours été les 6 premiers pour le travail, puis le 7e pour le repos. Au temps de Jésus, le cycle est en parallèle. Parce que là, il faut comprendre une chose. Dans le temps de Jésus, là, il y avait l'Empire romain qui régnait sur le peuple d'Israël. Puis l'Empire romain, Jules César, qui était un petit peu avant Jésus-Christ, il est né à 100 avant Jésus-Christ, mais à l'an moins 45, 46, là, je ne sais pas par cœur le détail, c'est pas nécessairement pour les dates, mais moins 45 ou 46, ou je ne sais pas quoi, avant Jésus, Jules César a imposé un calendrier dans l'Empire romain. Il a changé de calendrier, puis il a mis son calendrier pour réajuster tout le fait que les Juifs, puis les autres, ils essayaient de suivre les années, mais à tout bout de champ, il y avait des erreurs, il fallait rajouter des jours ou l'enlever, ça balançait plus, puis le printemps n'arrivait pas trop à la même place, parce qu'il suivait un cadran. Ben, eux autres, ils n'étaient pas équipés comme qu'on a aujourd'hui pour mesurer les journées, pour mesurer le temps que ça prend pour un an. Ils se faisaient des petites erreurs de calcul. Il a imposé son calendrier, Jules César, ça s'est appelé le calendrier julien. Puis le calendrier julien, il y avait 8 jours dans la semaine. Fait que ça débalance, hein? Parce que le cycle de 7 jours, mais les Juifs ont continué à garder le chiffre de 7 jours. Parce que, tout à l'heure, je l'ai dit, le verset qui disait, il y a 6 jours pour travailler une journée. Même si Jules César avait installé son calendrier, eux autres gardaient leur calendrier avec le cycle. Mais il faut comprendre que le cycle ne suit pas le calendrier. Le cycle, c'est un cycle qui doit se répéter sans arrêt, sans suivre de date. C'est pas la date qui compte. Il y en a qui essayent de dire, oui, ça prend la date. Il n'y a aucun verset dans tout l'Ancien Testament qui dit que le sabbat suit une date. Ça dit juste que c'est 7 jours, il y a 6 jours de travail, 1 jour de repos, puis c'est répétitif. Là, je suis en train de vous dire que les Israélites suivaient en parallèle le calendrier romain. Mais il y avait 8 jours, le calendrier romain. Quand Jules César il a imposé son calendrier à l'an 54, moins 54 avant Jésus-Christ, mais il s'est fait assassiner 2 ans après Jules César. Puis, il y a un successeur qui est venu qui s'appelait Auguste. Lui, il a repris le travail parce que son calendrier à Jules César, il avait encore des erreurs. Auguste, il a repris le travail, puis il a mis le calendrier de 7 jours, mais avant Jésus-Christ. Fait que le calendrier de 7 jours romain existait au temps des Juifs. Et aussi le calendrier de 8 jours, parce que le calendrier de 8 jours, il s'en servait comme calendrier pour les marchands. Il y avait des marchés aux puces, comme là, des kiosques, puis ils marchaient sur le calendrier des 8 jours. Mais Auguste, là, je vais vous épargner tous les petits autres détails là-dessus, lui, il a corrigé des choses, mais il a mis le calendrier à 7 jours, puis il existait au temps de Jésus. Le cycle de 7 jours, il était conservé, même malgré les changements de calendrier romain. C'est ça qui est le point que je veux qu'on comprenne. Il y en a qui disent que non, mais il y en a des sites qui disent que oui. Moi, je crois qu'au temps de Jésus, le cycle est encore là, puis Jésus suivait le sabbat. Puis même par la suite, le cycle, ils n'ont jamais lâché le cycle, les Juifs. Plus tard, là, on est à l'an moins 50, mettons, avant Jésus, le calendrier était changé pour le calendrier Auguste. 300 ans après Jésus, là, il y a eu Constantin qui s'est converti. Constantin, c'est un empereur romain, puis lui, il voulait comme mener non seulement Rome, mais mener la religion. Mais il aimait aussi le culte solaire, du soleil. Il imposa donc le dimanche comme jour de repos dans l'Empire romain par décret le 7 mars en l'an 321. Constantin. C'est Constantin qui a décidé que la religion, on rend libre les chrétiens, là, parce que là, il a arrêté la persécution contre les chrétiens, parce qu'il a apparemment qu'il a fait un rêve, il a vu une croix, puis ça, il s'est converti au christianisme, mais il est encore attaché au Dieu du soleil, puis il a décidé, il a fait un décret, on change la date du sabbat qui était, pas la date, le jour du sabbat qui était le samedi. Il l'a changé pour le premier jour de la semaine, qui était le dimanche. C'est lui qui a décidé cela, à l'an 321. Ensuite, à l'an 364, quelques années plus tard, le concile de Laodicée, qui est un concile de chrétiens catholiques, l'Église universelle de Rome, c'est l'Église catholique romaine, les premiers papes, c'est dans ce temps-là, ils ont fait un concile à Rome, probablement, je n'ai pas le détail. Ah non, Laodicée, ils ont fait un concile de Laodicée. Il a interdit aux chrétiens de judaïser. Ils ont fait un décret. Ils ne voulaient plus que les chrétiens observent le sabbat des Juifs. Sinon, ils seraient anathèmes. Ça veut dire non seulement qu'ils ont changé la journée de Saturne, Saturday, qui était le samedi, parce qu'eux autres fêtaient les faux dieux. Ils ont changé la journée de Saturne, qui est pour nous samedi, pour la mettre le dimanche, qui est Sunday, la journée du soleil. Puis, après ça, il a interdit les chrétiens d'observer le sabbat que les Juifs pratiquaient. Sous peine d'être anathème, ça veut dire que les gens auraient été excommuniés. Puis peut-être, quand tu étais excommunié à ce temps-là, tu passais au cash. Puis un autre détail qu'on voit dans les écrits, il y a une personne qui s'appelle Augustin Vespasien. Il s'est dit qu'il est un déifié. Il était déclaré comme un dieu, ce gars-là. Je ne sais pas si c'est un pape ou quoi que ce soit. Il attaquait les Juifs le jour de Saturne, le samedi, Saturday, parce que c'était péché pour eux de travailler. Fait qu'ils en profitaient pour faire la guerre aux Juifs la journée de Saturne, dans les années vous pouvez aller lire ça dans le Frontinus Stratagème 2.1.17. Ça vous fait beaucoup de détails d'un coup sec. On continue avec l'idée, là j'ai essayé de vous mettre en place, là, avec qu'est-ce qui s'est passé dans les changements de calendrier, puis comment est-ce que l'Église catholique elle a changé la journée du sabbat qui était le samedi pour la mettre le dimanche. C'est ça qui est l'histoire. Il y a un verset que je vais vous faire lire dans le Nouveau Testament, puis il peut être pris sur les deux sens. Paul y explique aux Colossiens, qui est une ville païenne. Allez lire ceux qui veulent le sortir, Colossiens 2, 16 et 17. Paul, dans ses écrits, il nous explique, quand il parle aux Colossiens, qui étaient des païens, de ne pas se sentir jugé parce qu'ils observent ou qu'ils n'observent pas le sabbat. Il peut être pris ces deux bords. Regardez bien le verset. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ça veut dire, sentez-vous pas jugé parce que vous mangez ou ce que vous buvez. Ou au sujet d'une fête, d'une lune ou des sabbats. Louis Sagan, il a marqué, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire, eux autres, là, c'était des païens, des gens qui connaissaient pas la parole de Dieu. Ils n'étaient pas parmi le peuple d'Israël. C'est du monde incirconcis. Ils ne suivaient pas les lois de Dieu. Mais ils se convertissent à Jésus. Puis là, Paul lui dit, sentez-vous pas jugés par le monde pour le manger et le boire, puis par les fêtes, les lunes, les sabbats. Louis Sagan, il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que les sabbats, c'est à l'ombre des choses à venir. Il y a comme une vérité spirituelle qui s'applique aujourd'hui à cause... Dieu a voulu faire passer un message dans le sabbat qu'il y avait un jour de repos qu'on devait prendre, qu'on devait sanctifier Dieu. Bon, mais il dit, laissez-vous pas juger à cause de cela. Ça, c'est un verset-là, il y a deux côtés qu'on peut le prendre. Puis c'est ça que je veux peser. Tout le monde qui veut continuer à rester le dimanche disent, ah, vois-tu, il dit... C'est pas grave, même si vous mettez pas en pratique le sabbat. Sentez-vous pas jugé parce que vous le mettez pas en pratique. Les autres n'ont pas d'affaire à vous juger. Il y a ce côté-là, ou le contraire, que ce peuple-là, cette ville-là, obéissait au sabbat, puis laissez-vous pas juger parce que vous obéissez au sabbat. Il peut être pris ces deux côtés. Ça fait une différence quand que tu cherches à prouver que le sabbat, on peut prendre le dimanche, tu sais, ou qu'on doit garder le samedi. Ça dépend de quelle position que t'as. Tu peux pencher que c'est plus le samedi, puis là, tu vas te servir ce verset-là pour dire, vois-tu, je suis le samedi, je suis correct, personne n'a le droit de me juger, puis l'autre va prendre le dimanche, vois-tu, je prends le dimanche, personne n'a le droit de me juger. Le point là-dedans, c'est que tu prends un sabbat. C'est ça qui est l'idée. Tu fais un sabbat, mais que la journée, là, faites-vous pas juger, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire, il y avait une vérité spirituelle, mais on n'est pas là pour critiquer les gens ou les juger. Pour ce qui est au niveau des détails de la mise en pratique du jour de sabbat, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on devra faire pendant la journée du sabbat? Parce que là, comme je l'ai dit au début de la réunion, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire dans son commandement. Jésus n'a pas aboli les commandements, il est venu pour les accomplir. Puis nous, on doit accomplir, il dit garder ses commandements. Puis si moi je veux garder ses commandements, comment est-ce que moi je dois pratiquer le commandement du sabbat, du jour du repos? Parce qu'il me dit d'en prendre un. Puis le commandement, il n'a pas retranché de commandement. Aujourd'hui, il y a bien du monde qui dit, « Oh, ça n'existe plus, les commandements. » Je vous ai prêché 3 semaines en ligne avec des versets dans le Nouveau Testament qui nous dit qu'ils sont encore valables, les commandements. Quand vous obéissez à ces commandements, vous montrez au Seigneur comment est-ce que vous l'aimez. Puis comment est-ce que c'est aussi pour demeurer en lui. Puis comme Jacques dit, si on pêche contre un seul commandement, on devient coupable de tous. Puis il dit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Je vous l'ai expliqué dans différentes façons, mais ils sont encore là, les commandements. Mais comment je dois pratiquer cela? À la base, le sabbat, c'est une journée pour se reposer. C'est ça qui est la première base du sabbat. Il faut comprendre que Dieu veut pas qu'on travaille comme des forcenés, puis il sait que notre corps a besoin de repos, puis il l'a même imposé aux champs, aux cultures. Il dit à tous les 7 ans, tu vas laisser une année de repos. Faut que ce qui est vivant se repose. Ça, il nous avait dit ça dans Exode, au chapitre 20, verset 8, quand il nous dit, au verset 10, il dit, « Le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, il ne fera aucun ouvrage. » Ça veut dire, apprends à travailler dans tout le reste de la semaine, mais consacre une journée au Seigneur. Mais, il y a certaines choses qu'on ne peut pas pratiquer dans le sabbat. Quoi? Mais dans les prescriptions du jour du sabbat, il devait avoir des sacrifices le matin puis le soir. Ça, on ne peut plus pratiquer ça, parce qu'il n'y a plus de temple. Le temple de Dieu, les sacrificateurs allaient offrir le matin puis le soir des sacrifices pour dans cette journée-là spécialement, parce que c'est une journée de sabbat. Puis vu que le temple n'existe plus, il a été détruit à l'an 70, mais on ne peut plus pratiquer cela. Puis nous autres, notre sacrifice, c'est Jésus. C'est plus les sacrifices d'animaux. Fait qu'on offre à Dieu un sacrifice de louange. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. On loue le Seigneur, on prie le Seigneur, on se donne aussi en sacrifice. Êtes-vous de ceux qui se sont donnés au Seigneur en sacrifice? Ça, on voit ça dans Nombre 28, les versets 9 et 10, pour ceux qui prennent des notes, que le sabbat, il fallait offrir des sacrifices. Jésus a donné des détails pour comment nous devons observer le sabbat. Faut pas oublier que Jésus est le maître du sabbat. Il l'a dit dans Marc 2, 28. Le Fils de l'homme, il est maître même du sabbat. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Jésus, c'est le boss. C'est lui qui l'a ordonné le sabbat, puis c'est à lui le sabbat. C'est pour lui le sabbat. Le repos, tu te reposes. Mais tu sanctifies ce jour-là, lui, il l'a sanctifié, puis il veut bénir les gens cette journée-là, puis il veut que tu offres, c'est à lui, il est le maître, c'est à lui que ça revient, toutes les louanges, l'adoration, la glorification, tout ce qu'on peut y mettre, puis une coupe de plus que ça. Le jour du sabbat, c'est parfait pour se réunir entre chrétiens. Le jour du repos, c'est un jour béni puis sanctifié, si on voit ça dans Genèse chapitre 2. C'est un jour mis à part pour une sainte convocation. C'est ça que ça nous disait dans Lévitique 23, 3. Ça dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Savez-vous c'est quoi une sainte convocation? Quand t'es convoqué, il dit, viens ici, t'es convoqué. C'est un appel, une convocation. Nous sommes appelés à rencontrer Dieu. Il dit, le jour du sabbat, c'est une sainte convocation. C'est un appel à aller rencontrer Dieu pour offrir à Dieu les sacrifices de louange, d'adoration. C'est le meilleur temps qu'on peut avoir pour rencontrer le Seigneur. C'est lui qui l'a institué, puis c'est pour lui que c'est là. Amen. Puis ça va en parallèle avec l'idée que Jésus avait coutume d'aller dans la synagogue le jour du sabbat. On a vu ça dans Luc 4, 16. Que selon sa coutume, il allait dans la synagogue. Jésus, c'est un gars qui voulait rencontrer son Père, puis marcher en communion avec l'Esprit Saint, puis aller offrir ses louanges, faire la lecture de la parole. C'était l'endroit pour aller puiser dans la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça que pour nous, c'est la meilleure journée pour se réunir. Mais Jésus a donné des petites explications sur le sabbat pour alléger le sabbat. Parce que vous avez déjà entendu que les pharisiens, Il faisait porter aux autres de l'eau fardeau, puis ils sont pas capables de le bouger eux-mêmes de leurs petits doigts. C'est qu'ils bougent rien, eux autres, mais ils donnaient des lois, puis des principes, puis ils rajoutaient ça, puis ils n'avaient pas le droit de faire ça, puis ils en rajoutaient, puis ils en rajoutaient, puis ils ont rendu ça bien compliqué. Jésus, là, il a allégé le commandement du sabbat par quelques versets qu'on va regarder rapidement parce qu'on achève. Parce que ce que j'ai remarqué, sur les 10 commandements, Jésus en a parlé. Sur les 10 commandements, il y en a 9 commandements que Jésus a amplifiés. Puis il y en a un commandement qui a comme relâché un peu, déslaqué pour que ça soit moins sévère, puis c'est le jour du repos. Le premier verset qu'on regarde dans Matthieu 12, les versets 10 et 12, ça nous dit qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Puis, comme ce qui est allogique, puis qui est permis de retirer sa brebis d'une fosse, ça tombe dans une fosse. Jésus le dit, il y en a qui avait vu que l'homme qui avait la main sèche, puis demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Puis il lui répondit, lequel d'entre vous, s'il y a une brebis qu'elle tombe dans la fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en sortir? Fait que même si on dit qu'on travaille pas cette journée-là, ta brebis tombe dans la fosse. Tu vas la sortir de là, même si c'est le sabbat. Jésus dit, c'est logique, là. Il dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Ça veut dire qu'on peut rendre des services le jour du sabbat. On peut aider les autres. Une autre chose que Jésus dit, dans Marc 2, le verset 23 à 27, Jésus nous dit qu'il est permis de se faire à manger le jour du sabbat. Parce que les Juifs ne se faisaient pas à manger le jour du sabbat. Il arriva un jour du sabbat que Jésus traversa les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis de blé. Fallait que tu les arraches, puis que tu les froisses pour enlever la pellicule qui est autour pour récupérer les grains. Après, t'écrases les grains, puis tu te fais une galette. Des tortillas ou des fricolaises, ou je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est des galettes au blé. Nous autres, on a des pains pita, là, au blé. C'est semblable. Là, ses disciples se mirent à arracher des grains, puis tout ça. Puis là, les pharisiens disent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité, puis qu'il eut faim, puis ceux qui étaient avec lui, puis comment qu'il entra dans la maison de Dieu, puis du temps du souverain sacrificateur Abiathar, puis il mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, puis en donna à ceux qui étaient avec lui. On voit dans ce verset-là que Jésus, il trouvait ça correct que ses disciples se fassent à manger le jour du sabbat. Ils ont faim, c'est normal, on mange. On n'est pas comme une journée d'ouvrage, là. Si t'es capable de préparer tes affaires la veille, il fallait la veille puis te reposer vraiment cette journée-là. Mais si tu crèves de faim puis t'as rien fait, fais-toi-en. Hein? C'est ça qui est l'idée. Puis là, il rajoute dans ce verset-là, au verset 27, puis il leur dit, le sabbat, il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire, le sabbat, il était donné pour l'homme, pour que l'homme puisse avoir une journée de repos. Mais nous, on n'est pas comme des esclaves de ce sabbat-là. On n'a pas été créés pour le sabbat. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il nous donnait du lousse pour cette journée-là. Un autre verset dans Luc 13, le verset à partir de 14. Ça nous parle qu'il est permis de faire des guérisons, puis même dans son explication, c'est permis de détacher son bœuf ou son âne pour lui donner à boire, là. Il dit, quand le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison au jour de sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, puis non pas le jour du sabbat. Jésus lui dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? On voit que Jésus, autant qu'il renforcit l'idée qu'il faut pratiquer un sabbat, mais autant qu'il dit, exagérez pas là, sur les pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. On se repose, oui. Va à l'église pour louer Dieu. Oui, ça peut arriver que tu rencontres quelqu'un là, au bord de la rue. Il est pris dans la neige. Je vais le pousser, même si c'est la journée de sabbat. C'est la logique, là. Un autre verset, le dernier que je vais vous lire, dans Luc 14, le verset de 1 à 5, qui est permis de retirer son fils ou son bœuf qui sont tombés dans le puits le jour du sabbat. Jésus est entré un jour du sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique qui était devant lui. Jésus prit la parole puis dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? » Jésus, il faisait exprès pour aller chercher. Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit puis le renvoya puis il dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt le jour du sabbat? » J'ai déjà vu ça, moi, un bœuf tombé dans un puits. Il est à mort noyé, mon oncle avait cela, un puits de surface, puis le veau, c'était une tare, était rendu aux trois quarts avant d'être adulte, là. Était tombé la tête la première dans l'eau, est morte noyée, mais était pris dans le trou. Pour le sortir de là, ça a pris un tracteur, puis avec des chaînes, puis ça a pris du temps avant de réussir de la sortir de là. Tu travailles fort. Qui de vous, que le jour du sabbat, il ne sortira pas son bœuf qui est tombé dans le trou? Tu vas travailler, tu vas en faire de l'ouvrage pour aider ton bœuf, pour pas qu'il se noie. Voyez-vous l'idée? Ou même ton enfant qui tombera, tu vas te dépêcher, il est là dans le fond. Puis il y a, des fois, c'est des puits, c'est creux, là, puis ça te prend donc corde pour aller chercher le petit qui est tombé là-dedans, puis qui il va se noyer. Il faut que tu travailles, tu sors ton enfant de là. Mais Jésus, il dit, allez le faire, mais on a le droit de faire des affaires le jour du sabbat. Ce qu'on doit comprendre, là, j'ai passé à travers d'un paquet de matières qui m'a pris du temps à fouiller. Je crois au sabbat. Je crois que ça fait partie de la volonté de Dieu. Les commandements n'ont jamais été abolis, puis je veux de tout mon cœur mettre en pratique cette journée de sabbat-là. Y a-tu des amen à quelque part? Ça fait partie que Jésus l'a fait, les apôtres l'ont fait, puis c'est enseigné que ça va se faire même dans l'éternité. Prendre une journée pour le Seigneur, t'arrêter tout ouvrage. Tu peux donner des coups de main, mais tu te reposes. C'est pour te régénérer. Ton corps en a de besoin, puis ta vie spirituelle aussi. Si tu veux vivre spirituellement, si tu veux te maintenir en forme spirituellement, il faut que tu sois à l'église. Puis venir rendre un culte au maître du sabbat. Avec toutes les explications, j'ai montré aussi, dans mon opinion personnelle, ce petit bout-là, avec quelques détails historiques, comment les catholiques avaient changé cette journée-là pour la mettre le dimanche. Mais la vraie journée, c'était la journée de Saturne. Ça, c'est des noms de journées, là. Nous, on ne savait pas Saturne, on ne savait pas le dieu soleil non plus. Quelle journée vous pensez que Dieu veut qu'on fasse? Là, vous allez regarder sur Internet, vous allez avoir plein d'explications qui vont vous mêler. Moi, je crois, mais je ne veux pas lancer de blâme nulle part à personne, puis je ne veux pas déranger à rien. C'est moi, je crois qu'on devrait le faire le samedi. Ça fait partie de ce que Jésus faisait, les apôtres l'ont fait, les Juifs le font encore, puis l'histoire nous montre que c'était là, puis c'est suivre le dimanche, là, c'est de suivre la religion catholique et non pas suivre la journée que Dieu voulait sanctifier. Je vous laisse là-dessus, priez là-dessus, croyez que Dieu vous a donné un bagage de connaissances avec les versets que j'ai emmenés, puis demandez au Seigneur ce quoi qui s'attend pour vous. Est-ce que vous devez suivre ça le samedi? Mais vous devez en faire une de toute façon. C'est pas on n'en fera pas. Non, on doit. C'est un commandement. Sauf quelle journée devrait-on prendre? Méditons là-dessus, puis on verra dans la suite si mon but est, lors de la réunion d'affaires, ceux qui sont membres ont un droit de voter pour prendre une décision si on on décidera de faire la réunion le samedi au lieu de la faire le dimanche.